Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 167. Mon nom est Paul Landriau et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Et ça fait un petit bout qu'on n'a pas été tous les trois ensemble comme ça, c'est donc bien le fun, yeah!
Ah, original, combo McValeur, ben oui.
Ben oui, the OG, the original crew.
Yeah.
Pourquoi? Parce qu'on était tous occupés notamment, et ça veut pas dire qu'on a rien vu, qu'on a rien fait, mais ça a été dur en fait de coordonner nos horaires.
Eh oui.
Mais notamment, Rémi, toi en fait, t'es sur un projet que tu es l'instigateur, j'ai l'impression qu'on en parle rapidement, parce que là t'as tourné ton segment.
Ah oui, c'est ça, Puis en fait, c'est le dernier podcast, je veux dire, c'est j'étais censé être avec toi, puis je pense la veille, je t'ai dit comme ça se peut plus là, ça se peut juste plus mon horaire, je suis comme au cou là. Mm-hmm. Mais ouais, ben là t'allais présenter, là, je te laisse.
Ben non, ça, en fait, j'allais dire que c'est donc une anthologie qui se prendra la forme en fait d'un long métrage un peu comme Cosmos. On se rappelle de ce film-là. Et toi, Rémi, dans le fond, tu organises le projet et tu fais également le segment qui vient un peu lier toutes les histoires.
Exactement, ouais.
Un projet qui s'appelle Montréal Dead End. Il y a déjà une page Facebook, d'ailleurs, que vous pouvez suivre pour avoir tous les détails. Et peux-tu nous en parler un peu plus en profondeur?
Ouais, ben, ça faisait quelques années, en fait, que je pensais à ça parce que je vais faire un genre de projet à travers la gang de Kino, là, tu sais, les réguliers à Kino. On est plusieurs à être un peu au bout de notre souffle à faire des courts-métrages rapidement qu'on passe dans 2-3 festivals puis que finalement ça meurt sur internet là, tu sais, il y a comme pas de suite à ça, puis on dirait que le long-métrage est un peu plus concret. J'ai amené cette idée là de se joindre ensemble puis de faire un long-métrage collectif, donc de mettre l'énergie qu'on mettrait dans un court-métrage Kino, mettre l'argent qu'on mettrait dans un court-métrage Kino, qui est quoi, genre 1 000-1 200 $ à peu près pour un segment. Puis après ça, de tout mettre ensemble, tout mettre l'énergie, puis faire un robot géant. C'est comme dans Power Rangers, quand ils s'assemblent, là, les morceaux, là, ben, le robot est encore plus fort. Ben là, c'était ça un peu
le Megazord.
Ouais, c'est ça, exactement. On a un connaisseur. Fait que c'est ça, fait que, tu sais, je le présente un peu comme un Paris Je T'aime fantastique. Parce que, tu sais, Paris Je T'aime, c'était les arrondissements de Paris, puis là, on est allé chercher les quartiers de Montréal. Donc, les réalisateurs qui ont participé devaient choisir un quartier et faire une petite histoire de 5-6 minutes qui se passe dans ce quartier-là. Puis, il y a une prémisse fantastique qui est une... Pour le résumer vite, en gros, il y a un nid de poule qui s'est un peu trop défoncé, puis ça a fait ressortir de quoi au creux de la terre, une espèce d'énergie négative.
Ah, fait que là,
les gens dans les quartiers, ouais, c'est vraiment, vraiment Montréal. C'est un peu un anti 375e dans un sens, là. Bref, les gens dans les quartiers sont affectés, puis c'est, les réalisateurs sont libres d'exploiter ça de façon, autant faire du fantastique gore comique que d'aller dans de quoi de super psychologique. On peut aller vraiment dans les deux zones. C'est libre à l'artiste. Puis c'est ça, puis à date, c'est assez impressionnant ce que j'ai vu. On a 14 segments au total. Moi, comme tu disais tantôt, Paul, moi, je fais celui qui rassemble un peu tout parce que tout est séparé, mais il y a une histoire globale. Un personnage qui essaie d'aller arrêter les forces du mal à Montréal dans ce 24 heures-là de chaos dans la ville. Donc, c'est ça. Puis au final, ben ça va donner un film de 1h40. Là. Puis tu sais... Mm-hmm. Là, c'est un peu comme un projet pilote, mais on se dit, si ça fonctionne, il y a eu ABC of Death qui ont réussi à en faire un deuxième. Là, si ça fonctionne, est-ce que on peut avoir des sous pour en faire un deuxième avec une bunch de réalisateurs différents? Tu sais, parce que on aurait la preuve que le film fonctionne, tu sais. Là, c'est un projet vraiment weird. T'essaies de pitcher ça à des commanditaires, on a essayé d'aller voir pour avoir des subventions de la ville, puis ça passe pas, là. C'est super difficile à vendre comme projet. Mais un coup qu'ils vont voir le premier, on se dit peut-être que là, il va avoir la chance de débloquer quelque chose pour pouvoir aller s'en faire un deuxième volet. Là. Donc, c'est un peu ça le but.
Ouais, puis whatever happens, même si ça devient une curiosité unique, ben si c'est ça l'issue, ben so be it, là, dans un sens aussi. Là,
exact. T'sais, au pire, on a un long métrage, puis on se promène en festival. T'sais. Fait que c'est comme... Parce que c'est vraiment le fun, ce genre de programme-là, dans un festival... Pis surtout dans les festivals de genre, j'ai l'impression que si on était allé dans quelque chose de plus traditionnel, dramatique, à la Paris Je T'aime, vu qu'on n'a pas des gros noms dans les réalisateurs, ça va être un petit peu plus difficile à distribuer dans le circuit de festivals, je dirais, normal, entre guillemets, là, tu sais, des festivals genre Sundance, le TIFF et compagnie. Donc là, avec un film comme ça, on peut aller attaquer un marché qui est plus le marché du cinéma de genre, puis aller dans des festivals très ciblés. Puis d'après moi, on a des bonnes chances de passer un peu partout, là, de se promener dans les gros festivals de genre. Là, c'est une carte postale de Montréal, des cinéastes de la relève, mais fantastique, là. Donc voilà, c'est pas mal ça, là.
Mais c'est vraiment drôle, en fait, que tu dises que c'est un, comme un anti-375e, parce que... Est-ce que t'as vu Hochelaga, Terre des Andes?
Non, j'ai pas vu ça.
Ben... Non? Parce que
on en ça, parle en fait, comme un film d'anti-375e aussi, à certains égards, un peu. Là.
Ben, je suis comme sous embargo, en fait, parce que là, c'est ça, pour la presse, la critique, tout ça, c'est la sortie est en janvier. Ça a été annoncé, finalement. Ouais, là. Ouais, ouais. Et nous, on n'a pas vraiment le droit d'en parler encore. Ceci dit, la prémisse de ces deux films-là ne sont peut-être pas aussi éloignées qu'on peut penser à la base.
Oh, ouais!
Je dis ça comme ça.
Ah, ben, OK, ben... Tu vois, c'est sans le savoir, là. Ouais. C'est, ben, c'est, d'après moi, je sais où tu t'en vas parce que, tu vois, c'était ça un peu le personnage principal de mon segment. C'est un autochtone. Puis c'est un peu le fuck you à, ça fait, c'est pas vrai que ça fait 375 ans qu'il y a des gens sur l'île, là. Ça fait plus que 375 ans. Puis c'est un peu ça, là. C'est l'autochtone qui vient sortir les blancs de la marde parce que, il sait que s'il sort pas les blancs de la marde, c'est lui aussi qui va être dans la marde. Fait il se lance dans la ville puis il est comme je vais aller les sauver. Fait que ça, en tout cas, c'est un peu ça le principe du segment qui relie tout, là, mais.
Spoiler, genre, ok, parce que tu sais, je veux parler de Wind River, là, puis Wind River, c'est l'inverse, man. C'est Jeremy Renner, man, le blanc, asti, sur tous les autochtones. En tout cas, il y aurait une transition, mais je vais laisser Paul faire sa magie, là. Mais il y aurait une transition. En tout cas, on va revenir sur Wind River. On va revenir sur Wind River.
Parfait. Puis, donc, Rémi, est-ce qu'on peut s'attendre, là, le projet, le tournage est complété. Est-ce qu'on peut s'attendre à une sortie en festival et ou en salle en 2018?
Ouais, ben, notre timeline, c'est qu'en mars, on aurait, ben, là, on va lancer dans pas long une campagne de sociofinancement pour se rembourser un peu, là, parce que tout le monde a mis son argent personnel, fait qu'essayer de... Ouais, c'est ça. Puis en fait, c'est surtout pour que chaque réal était responsable de sa partie, fait que chacun rattrape un petit montant, puis le reste, en fait, on le met dans la distribution, parce qu'il y a toujours des frais pour la distribution au festival, fait qu'on met ça là-dedans. Puis tu sais, c'est un petit montant qu'on demande, si on dépasse, tant mieux, on splittera plus l'argent, puis les gens auront un peu plus de ce qu'ils ont investi dans le film. Puis là, on veut faire une première en mars, en fait, avec l'équipe et les gens qui nous ont donné les sous. Après ça, on aurait un festival de confirmé en avril qui est intéressé à l'avoir. T'sais, ils l'ont pas vu encore, fait que c'est encore à vérifier, là, mais puis à Montréal, ça devrait être dans un festival l'été prochain. Mais
okay. On se demande lequel, peut-être.
Si la tendance se maintient, là.
C'est bon, ça.
Bon, mais bravo, Serge Zic, pour cette acquisition. Alors,
ça serait-tu malade?
Ça serait fou, man. Né à nez avec le nouveau film de Nils Olivetto, man.
Ah ouais?
OK, bon.
Sinon, on l'a mentionné déjà, j'ai déjà mentionné au dernier podcast, mais je tiens à le répéter parce que ça vaut la peine quand même. Pendant que, Pascal, tu étais donc en vacances et que tu profitais d'un rare moment, en fait, de paix, de solitude et de déconnexion du monde.
De crise de paix, qu'on dit.
Les faux tatouages, ton premier film de fiction, gagnait le prix Focus au FNC du meilleur film canadien / québécois. Donc ça, c'est super, c'est vraiment très bien, bravo, et on le sait, ça va aider beaucoup pour la distribution en festival, tout ça. Vous avez déjà annoncé que le film sera distribué, d'ailleurs, premier trimestre 2018, en salle.
Ouais, exact. Exact. C'est vraiment drôle, en fait, là, alors qu'on se parle, il est lundi soir, 30 octobre, on a, en fait, c'est du backstory un peu, là, mais on a un meeting de distribution demain, 31 octobre, pour, en fait, fixer la date. Donc, à l'heure où on se parle, je le sais pas. À l'heure où le podcast va être en ligne, je le saurai. Mais tu sais, après ça, il y a toute une stratégie, je dirais, quand est-ce que tu divulgues les infos, tout ça, un peu, là, ça, c'est... Il y a comme une équipe, là, derrière moi. C'est à peu près la première fois que je peux jouir de ce luxe-là, dans un sens, là. C'est l'équipe de Chantal Pagé, Maison 4 tiers. Ils ont changé de nom récemment, c'est eux qui avaient distribué, entre autres, au Québec, ils avaient distribué Mon ami Dino, dans le temps que ça s'appelait L'Atelier. Ils ont distribué beaucoup de films internationaux, dont le documentaire Demain, là, de Mélanie Laurent. Entre autres, mais tout ça pour dire que je leur fais full confiance, fait que Il adviendra ce qu'adviendra, puis dès que ce sera l'heure, je pourrai vous en parler.
Oui.
Parce que, ouais, c'est ça, ben, le film a eu 2 projections au FNC, là, donc ça va rester tranquille au niveau de Montréal jusqu'à la sortie commerciale, j'ai bien l'impression.
Mm-hmm.
Peut-être des rendez-vous, là, mais ça, bon, faut jamais vendre la peau du Wookiee avant de l'avoir tué, mais on verra.
Ouais.
je fais une blague visuelle, là.
Ouais, c'est fait, ça, c'est là, vraiment c'est un inside joke, là, parce que...
Il y a vraiment une inside joke, OK? Pour vrai, il faudrait quasiment prendre un screenshot de ce qui se passe en ce moment, vous allez comprendre l'inside joke. Mais bon, mais non, mais merci pour les beaux mots, Paul. Oui. C'est vraiment...
Et non seulement ça, mais dans les prochains jours, en fait, tu seras également l'invité d'honneur d'Image en vue. Est-ce que c'est le film d'ouverture, donc, du festival, Les Faux Tatouages?
Oui, c'est ça. Ben moi, comme je suis né aux Îles-de-la-Madeleine, c'est le programmateur du festival, puis tu sais, qui me connaît quand même bien, parce que j'ai quand même eu certains courts-métrages qui ont joué là. Je m'y suis rendu aussi à Image en vue par le passé pour présenter un film là, donc... Puis là, ouais, c'est ça, il trouvait que c'était pertinent de faire un genre de segment, il appelle ça du court au long, en fait.
Mm-hmm.
Puis il présente Blonde aux yeux. En tout cas, pour plusieurs raisons, Blonde aux yeux bleus n'avait pas joué là l'année où il était distribué. Fait que là, ils font comme une genre de soirée, là, il y a comme Blonde aux yeux bleus, il y a les faux tatouages, puis il y a une grosse discussion. Puis le lendemain, je le présente dans une polyvalente, en fait, à l'école, avec des étudiants de secondaire. Puis ça, je t'avoue que je suis vraiment excité, mm-hmm. en fait. Fait que, ouais, il y a comme un petit événement autour du film, là, aux Îles-de-la-Madeleine. Ça, c'est très cool. Puis c'est vraiment une projection spéciale, parce que, a priori, comme c'est un festival de court-métrage. Puis, ben, je vous fais un scoop, là. On est le 30, ça va être annoncé le 31, mais il va jouer au FICFA aussi, à Moncton, le 23 novembre prochain. Fait que ça aussi, c'est un super beau festival. Donc, il y a ça là, qui se trame au Canada, au Québec, à l'automne. Puis, début 2018, on est encore en attente de peut-être des très bonnes nouvelles. Vous allez voir. Fait qu'on verra où est-ce qu'il va atterrir pour 2018.
Et voilà. Cool, juste te dire, oui. Pascal, félicitations aussi parce que, tu sais, le film, il marche vraiment bien. Là. On s'en est comme pas parlé depuis voix. Mais tu sais, moi, je l'avais vu un premier cut... Mais qui était quand même semblable du je veux dire, tu l'as changé
ouais,
là, mais
ouais,
il était quand même avancé là. Puis tu sais là je l'ai revu une deuxième fois en salle, mais tu sais là je l'ai absorbé en entier là, je veux dire j'étais vraiment ouais, dans ouais. le film et non dans l'analyse là. Puis tu m'as eu là, tu sais, c'est genre t'es venu me chercher par les émotions puis tu m'as tordu j'étais comme cool. J'ai vraiment été ému là, c'était vraiment solide là, puis c'était drôle aussi. C'était comme...
Attends un peu, je t'arrête là. On reviewera pas mon film au podcast, là.
Ah non, OK, ben c'est bon. Non, mais c'est parce qu'on s'en est pas... Tu sais, on vient de se parler pour la première fois, là, depuis la projection. Fait que... Non, mais en tout cas, moi, j'aimais ça. Là.
Ben oui, ben, merci, Colin. Mais je vais juste vous conter une mini-anecdote avant qu'on passe le flambeau à autre chose. Donc, j'étais... à Pissac, en fait, une petite ville dans le fin fond de la vallée sacrée au Pérou. Puis tu sais, on nous avait vraiment dit, là, pour vrai, là, dans la vallée sacrée, là, l'Internet, là, ça se passe vraiment, vraiment, vraiment pas. Mais moi, de toute façon, j'avais pris ça de façon ultra zen. J'ai pas amené mon laptop, j'ai laissé mon cellulaire sur mode avion, j'ai pas checké mes shit du tout. Puis, je sais pas, à un moment donné, j'étais comme, ah oui, c'est ce soir, les prix. Puis on était dans une auberge ce soir-là où il y avait un semblant de peut-être Internet. Fait que là, mon petit frère, il check là, sur son cell. Ah ouais, on va checker, tu sais. Puis comme de fait, on voit, hey, prix Focus, Québec, Canada, les faux tatouages. Là, on était tous là autour de la table. Oh my God, tu sais. Puis là, je vois ça, effectivement. She's getting real, là. Je l'ai appris après tout le monde, ça a l'air... Mais ça a été donc vécu en famille parce que c'est un voyage familial, là, je peux pas rentrer dans le personnel, mais fait que ça a été finalement peut-être la plus belle façon de le savoir puis de le célébrer, mm-hmm. ça a été justement de façon intime en famille. Fait que ouais, ben écoute, les faux tatouages, man, on va avoir d'autres occasions d'en parler, il va sortir en salle, fait que quand ce sera le temps. Oh yeah!
Cool! Puis pour ma part, en fait, dans les derniers jours, également, j'entrais pas dans les raisons, pour des raisons familiales, en fait, je suis allé en Californie. Mais je vais quand même parler un peu du volet cinéma. Parce que qui dit Californie, les gars, dit Hollywood. Et ça serait bête de ne pas en profiter d'être sur place pour aller voir quand même 2-3 trucs intéressants. Fait que je vais rapidement passer sur, en fait, bon, évidemment, on est allé voir, tu sais, le Chinese Theater, le Grauman Chinese Theater, là où il y a eu la première de Star Wars, l'espèce de le cinéma mythique. Juste en face, à quelques pas, il y a le El Capitan. Puis il y a comme plein de cinémas sur donc le boulevard, le Hollywood Boulevard, où il y a le Walk of Fame, donc avec toutes les étoiles. Ça, c'était, tu sais, c'est quand même cool parce que, tu sais, c'est comme tellement surréaliste, puis t'as tellement vu ça beaucoup, puis là, t'es finalement dessus, genre. Fait que c'est bon, c'est une espèce d'étape obligée, un peu, là, si on passe par le coin. On n'a pas eu le temps vraiment d'aller voir des studios. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de. Il y a des tours aussi d'organiser, il y a des tours guidés avec, mettons, Universal, des trucs comme ça. Ça, on n'a pas vraiment eu le temps. Mais on a pris le temps aussi de marcher. C'est quand même une très grande marche, en fait, sur une colline qui se rend jusqu'à l'observatoire Griffith, où a été tourné Rebel Without a Cause et donc également aussi La La Land. Ça, c'était vraiment bien. Puis, tu sais, du haut, tu avais vraiment une vue de toute la ville. C'était vraiment impressionnant. Et deux petits arrêts dans des cinémas vraiment intéressants. En fait, le premier, c'était le cinéma de Tarantino, le New Beverly, qui est donc sur le Beverly Boulevard. Et c'est vraiment drôle, en fait, parce que, en fait, vous le saviez que Tarantino, il avait son propre cinéma, puis qu'il faisait la programmation, puis c'était ses propres copies, tout ça. Puis lui, en fait, il refuse de faire jouer autre chose que de la pellicule. Donc, vraiment, souvent, évidemment. En fait, ouais, c'est ça. Puis de nos jours, tu sais, les films, il n'y a même plus de copies de pellicule. Donc, il y a plein de films américains que la seule copie qui existe, elle est créée spécifiquement pour ce cinéma-là. Comme là, dans le fond, la fois qu'on est allé, le lendemain, il jouait It Follows, puis c'est la première copie 35 de ce film-là. Puis ensuite, lui, ça, il garde pas ça au cinéma. C'est-à-dire qu'il exige une copie 35, le distributeur en fait une, lui présente ça quelques soirs. T'sais. Puis ensuite, ben la copie, elle va au studio puis c'est ou au cinéaste, là, dépendamment du projet. Puis ensuite, ça fait une copie pour les archives. Pour,
ouais, c'est ça.
Fait que
c'est génial.
C'est vraiment une belle chose.
Je savais pas ça, en fait.
Puis c'est vraiment lui, en fait, qui gère la programmation. Là. C'est pas juste, il a pas juste acheté un truc puis il met son nom. Là. Puis c'est tout le temps des double features pour 8$. La salle est vraiment crade. Là. Je pensais que ça allait être comme vraiment luxueux, mais c'est vraiment comme une toute petite salle, en fait, à peine 200 places. Il y a genre un tout petit comptoir. C'est vraiment minuscule. Là. Puis ça fait un peu comme si t'avais juste une salle du cinéma du parc, un peu. Là. T'sais, c'est pas vraiment prestigieux. Là. C'est vraiment un tout petit truc, mais la programmation est malade. Et c'est toujours des double features à tous les jours. Nous, on a juste pu attraper le deuxième film. Puis entre les films, t'avais une vieille pub de genre une saveur de soda qui n'existe plus. Puis genre, il y avait comme des annonces en 35 mm, là, des vieilles bobines de films comme il y avait Texas Chainsaw Massacre. Puis l'autre, c'était un Horror Hotel. Avec les bons vieux grindhouse, les bons vieux films d'exploitation, d'horreur, des séries B avec les voix épiques. Puis genre, Horror Hotel, c'était comme Checking Alive, Check Out Dead. Puis genre des trucs comme ça. Puis le film qu'on allait voir, c'était un film de Blaxploitation. En fait, c'était pour l'Halloween. Et c'était une relecture, dans le fond, de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Sauf que là, pour le coup, c'était Dr. Black and Mr. Hyde. Puis, en fait, c'est à propos d'un docteur qui fait des recherches sur un sérum pour, je pense, contrer le cancer. Mais finalement, le sérum, il y a des effets secondaires qui donnent vraiment une grande force surhumaine. Mais il rend les gens blancs, en fait. Donc, il acquiert du pouvoir tout en étant blanc, puis il devient un peu fou. Fait que c'est aussi comme une espèce de commentaire social de l'époque, là, tu sais, le white power, tout ça. Super funk, plein de nudité gratuite. Évidemment, lui, c'est un docteur, mais il se tient avec plein de prostituées. C'était comme... tu sais, le film est assez pourri, mais comme je l'aurais jamais vu sinon, puis je l'aurais écouté jamais dans des conditions de même. Là. Fait que c'était quand même pas mal le fun. L'autre cinéma qui est le Big Edwards, c'est à Newport Beach, et c'est vraiment un cinéma super cool. On n'a pas trop fait de recherche, mais on pense que c'est un ancien hôtel, parce que la manière que c'est fait, puis il y a comme une espèce de débarcadère à l'entrée, où clairement à l'époque, les taxis arrivaient là, puis il y avait comme des valets qui arrivaient pour prendre les bagages, tout ça. Et en fait, on va voir, il n'y avait pas comme un gros choix de film, il y avait juste 6 salles, et... ma femme, donc, elle aime pas du tout les films d'horreur, fait qu'on n'est pas allé voir Jigsaw. Mais il y avait encore American Made qui jouait avec Tom Cruise. Et quand on prend le billet de ça, c'était quand même cher. C'était genre 16$ US le billet. Là. Puis là, on prend du popcorn, ça, et on s'en va dans la salle. Et c'est des espèces de gros lazy boys en cuir qui s'inclinent avec une tablette puis genre un porte-gobelet. Puis là, fait que là, genre, on était comme... On dormait sur des lazy boys devant genre un méga écran, méga son, super bon... devant Tom Cruise dans un film plutôt banal. C'était vraiment comme la classe américaine.
Ça
a l'air d'en dire
vraiment ce film là.
Ouais, c'est vraiment pas super. Puis pourtant c'est Doug Liman qui l'a fait, hein. Tu sais, c'est un bon réal. Ouais, ouais. Il a fait, je pense que c'est lui qui a fait le premier Bourne Identity, si je me trompe pas. Donc en tout cas,
il
bref,
a pas fait les trois, me semble. En fait, c'est...
non, après ça, c'était Paul Greengrass qui avait fait le 2.
Mais Paul Greengrass, l'ultimatum, c'était Paul Greengrass.
Ouais, ouais, ouais.
Le 2 et 3, je pense, c'est Paul Greengrass. Ouais.
Ok.
Mais puis il y a juste trois Bourne, c'est ça. Il y en a pas eu d'autres. fait que non, c'est ça. Ben, en tout cas, le film, encore une fois, c'était pas très bon, mais le cinéma, vraiment cool. Si vous êtes dans le coin là, puis vous voulez un bon cinéma, le Big Edward, c'est génial. Fait que c'est un peu ça pour mon épopée californienne. On n'a pas spoté de vedette, malheureusement.
Bon. Mais là, avec tout ce qui se passe à Hollywood, là, est-ce que toutes les étoiles du Walk of Fame sont encore là ou ils commencent à mettre de la peinture sur quelques-unes des étoiles, là?
Ben non, mais on rit parce que... Ouais, ben c'est ça, Trump a été démoli une couple de fois, son étoile.
Non, mais là, je référais à Weinstein, Kevin Spacey...
Ah, oui, 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 oui.
Mais c'est peut-être hashtag too soon aussi, là, on peut procéder, là.
Ben, faut pas tous non plus les mettre dans le même bateau, là. Non. Spacey, c'est vraiment tôt, puis on sait pas encore... il y a une personne qui est venue contre lui, puis c'est peut-être pas nécessairement comme... tout à fait avéré, tandis que...
Ouais, non, ouais. Je veux même pas lancer le débat.
Pourquoi il s'est passé de quoi avec Weinstein?
Ouais, c'est ça. Bon. Mais, puis en fait, il y avait une première cette journée-là qui s'organisait, je sais pas pour quel film, et puis il y avait vraiment plein d'étoiles qui étaient cachées, en fait. Donc, tout le coin, tu sais, devant le Grauman's Chinese Theater, où il y a les plus importantes, là, parce que tu vois clairement qu'il y a comme... Tu sais, à l'époque, ce boulevard-là, en fait, c'était géré par un comité, puis c'est de manière indépendante, mais avec les années, c'est vraiment devenu une opération commerciale, et c'est les vedettes elles-mêmes qui doivent faire une demande, puis ça vient avec un coût de genre, je pense que c'est 5 000 $ US, tu sais, pour poser ta candidature, et ensuite, il y a quand même un comité qui approuve, mais c'est devenu vraiment plus une opération, je pense, commerciale, et tu peux vraiment spotter par rapport à où ils sont rendus dans la rue, à quel point ils sont importants.
Le racket des étoiles.
Ben, c'est clairement ça. Tu sais, je veux dire, il y a des gens,
ça
mettons...
Ça peut être long, là.
Ouais. Mais tu sais, il y en a vraiment, on sait que tu dis, ça valait-tu vraiment la peine de... Tu sais, il y en a qui c'est une consécration. Tu sais, comme, mettons, quand il y a eu l'étoile d'Alfred Hitchcock, tu sais, c'est pas lui qui a fait la demande. Tu sais, c'est comme... C'est obligé d'avoir lui. Mais quand t'as genre Mary-Kate and Olsen Ashley, tu sais, t'es comme... Mary-Kate and Ashley Olsen, tu sais, t'es comme... Ouais, c'est quand même des vedettes, mais ils ont encore, genre, quoi, 30 ans dans la vie, là, tu sais, je
veux dire. Ou les personnages fictifs, là, tu sais, genre...
Ouais. Ben, c'est quand même cool!
Ben, c'est drôle, là, mais tu sais, c'est comme... C'est parce qu'il y a un documentaire qui existe qui s'appelle Starring Adam West.
Ouais.
Puis, en gros, c'est comment Adam West... En fait, il y a des gens qui se sont rassemblés, parce qu'Adam West, tu sais, il a eu sa carrière comme Batman, puis après il est devenu comme un peu dans l'oubli, il est tombé dans l'oubli pendant longtemps, jusqu'à temps que Seth MacFarlane, il ramène avec Family Guy, puis qu'il y a plein de monde qui se mettent autour de lui, puis c'est du monde autour de lui qui ont réalisé qu'il n'y avait pas son étoile, puis c'est un documentaire, en fait, sur le quest pour donner l'étoile à Adam West. Puis ils ont appliqué pendant plusieurs années, puis ils l'avaient pas. Puis ils étaient, tu sais, le monde dans ce comité-là, il était super déçu parce qu'il y avait plein de personnages fictifs qui avaient des étoiles. Puis Adam West, il n'avait même pas encore son étoile, il était refusé.
Mm-hmm.
Puis en tout cas, c'est un doc sur... bon, on s'entend que ça finit bien, là. C'est un bon documentaire, là. Mais c'est ça, mais c'est... Tu vois un peu le processus, puis ça a l'air tellement compliqué, là, pour avoir juste une étoile...
Ouais.
Même si t'as fait de quoi de assez significatif, là.
Hey man, c'est dur d'avoir une étoile, imagine avoir 5 étoiles.
Ok, mais non, mais pour les passages fictifs, je suis quand même d'accord. Puis on a vu comme l'étoile de Godzilla, ça fait quand même bizarre.
Ouais.
Mais t'avais un spot où t'avais rassemblé une à côté de l'autre. T'avais, mettons, Donald Duck, Mickey Mouse, tout ça, et l'étoile de Walt Disney. Puis ça, je suis comme... C'est quand même des personnages qui ont marqué le cinéma. Fait,
c'est sûr.
Puis même Godzilla, je veux dire, c'est quand même une icône. Puis je serais curieux en fait de savoir il y a combien d'artisans et ou personnages du Japon. Il doit pas en avoir beaucoup. Là, il y a probablement Akira Kurosawa, mais je suis pas tombé dessus. Mais il doit pas en avoir, c'est ça, des masses.
Ouais.
Donc voilà. Fait que c'est ça. Et sinon, toi, Rémi Fréchette, tu voulais nous parler du FNC un peu. Parce que tu n'avais pas pu, ça, des notes, comme on disait tantôt, pour le dernier épisode. Parce que je pense que tu avais des bons mots à dire pour Jeannette de Bruno Dumont, c'est ça?
Ben, en fait, non, mais je suis content, en fait, que Pascal soit là, parce que... Tu sais, moi, j'ai eu... Bon, c'était mon premier FNC, là, en beaucoup de temps. J'en avais parlé déjà dans le dernier épisode où j'étais là. je pense qu'on était rendu au Garçon Sauvage que j'ai tellement aimé, j'ai tellement adoré. Fait que tu sais, j'étais comme au milieu du festival, fait qu'il me restait quand même des découvertes à faire, là. Des découvertes, des déceptions. Puis j'ai pas eu beaucoup de déceptions, hein. Il y a eu Wonderstruck que j'ai trouvé comme correct, là.
Ah ouais.
Ben, puis pour vrai, je pense que les échos étaient pas malades, hein. Je sortais de la salle, puis le monde avait un peu des petites faces basses, là. Tu l'as-tu vu, Paul? Okay.
Non, pas encore. Il sort la semaine prochaine en salle, là.
Ouais, c'était comme un peu, quelconque, là. C'était, il y a comme pas tant de thrill, là. Il y a pas dans, c'est pas un film antagoniste, là. C'est pas un film à, il y a pas de grosses tensions. C'est un peu long. C'est un peu mou. Il y a des belles idées visuelles. C'est un film qui dérange pas, là. Je dirais ça comme ça, là. Il y a okay. vraiment des passes à la, tu sais, à la Michel Gondry, là, tu sais, de l'esthétique à la Michel Gondry, vraiment trippant. L'utilisation du noir et blanc puis du muet qui est vraiment le fun aussi puis qui est bien justifié au niveau narratif. Mais c'est juste comme, c'est un film qui passe, puis à un moment donné, c'est fini, là. Il y a comme pas de, ça fait comme pas de bruit, là, tu sais, c'est, en tout cas, c'est ça. Puis l'autre film qui m'a shaké quand même, peut-être dans le mauvais sens, là, c'est Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc, qui avait été chaudement recommandée par Pascal.
Ben écoute, moi c'est un de mes films préférés de l'année à date.
Hey, tu me l'as tellement vendu, tu sais, de le vendre à une comédie musicale d'époque avec genre du métal, métal électro qui mène plein de genres.
Baroque comme... médiéval, là, ouais.
Ouais, mais tu sais, il y a vraiment des bouts de métal, il y a du headbanging, ouais, pis tout, là. Je m'en allais là-dedans, pis j'étais comme, ça va être malade mental, là. Mais tu sais, hey, pour vrai, après 10 minutes, là, j'avais tellement hâte qu'on passe à autre chose, là. Parce que c'est, tu sais, mais, je vais m'en souvenir, là, ça, je peux dire ça, là. Je vais vraiment m'en souvenir de ce film-là, pis c'est peut-être sa grande qualité, là, pis tu t'en souviens pour le meilleur ou pour le pire. Mais tu sais, c'est un film de 2 heures qui se passe dans à peu près un décor et demi, là. T'es surtout dans une espèce de petite, pas de vallée, là, mais un petit petite clairière avec une maison, là, puis une maison d'époque, puis tu sais, y a pas grand chose. Puis les acteurs sont, sous-dirigés. Sont un peu dirigés, mais Pascal en avait parlé en plus que tu sais, y a des décrochages, puis les acteurs sont vraiment laissés à eux-mêmes. Mettons, t'as une évolution, c'est l'enfance de Jeanne d'Arc, t'as 2 phases à son enfance. T'as l'enfance, puis t'as l'adolescence. Puis, disons que dans la première partie avec la petite fille, c'est vraiment comme, c'est comme quand tu vas voir une pièce de théâtre, catholique, de jeunes de 6e année.
Genre avant ta première communion, là, tu fais un petit show, là.
Exactement. Tu fais le petit show, puis il y a eu peut-être 2-3 répètes, puis c'est peut-être la performance qui est donnée par les jeunes. Parce que pour vrai, là, c'est sûr que c'est ça, je comprends que c'est ça l'intention, c'est ça le but, là. Parce que il sait ce qu'il fait. Il doit, tu sais, il a quand même fait d'autres longs métrages. Il a déjà dirigé des comédiens, mais c'est des comédiens non dirigés. C'est ça le trip du film. Fait que c'est comme, ça peut devenir, soit tu tripes là-dessus, soit tu tripes sur le processus, ou soit ça devient long assez rapidement, là. Parce que c'est vraiment des enfants qui récitent des textes ultra denses, mais sans savoir des textes, ce qu'ils disent. Pis
un texte très soutenu, un texte riche, là, puis riche en
bout. Oui, c'est ça.
Je pense que c'est parce que je pense qu'on peut facilement tomber un peu dans la lune avec le phrasé, avec les textes, ou être tellement oppressé par ce que le film peut te faire pour pas nécessairement déceler, t'sais, ce qui est dit d'une façon intellectuelle. Mais comme quand on s'y penche, le texte est au fait très soutenu et très intéressant. Elle parle de beaucoup de choses. En tout cas, à mon sens, mais bon.
C'est quand le texte est porté par des comédiens qui comprennent pas le texte, qui sont même pas capables de soutenir émotionnellement un texte, là, parce que c'est juste des enfants qui ont appris par cœur le texte puis qui font juste le cracher puis en fait, moi, ça me rappelle parce que j'ai fait un peu de théâtre au secondaire. Il y a un gars, il est rendu quand même connu dans le théâtre underground à Montréal. Il s'appelle Félix-Antoine Boutin. J'étais allé avec au secondaire, puis le gars était vraiment en avance sur son temps. On était en secondaire 5, puis il a monté une pièce de Wajdi Mouawad avec des jeunes de secondaire 4 et 5. tu sais, qui sont pas... Moi, j'étais pas assez mature pour connaître le fond de Wajdi Mouawad, puis d'analyser le texte. Puis, tu sais, Félix, il était vraiment en avance là-dessus au niveau... Puis au niveau de la mise en scène au théâtre. Bref, je me suis retrouvé dans la pièce à interpréter le rôle principal de la pièce, à apprendre des monologues de 4 pages.
Oh, man!
Puis, écoute, je mettais l'émotion que je pouvais là-dedans en comprenant ce que je pouvais comprendre dans le texte. Mais j'étais pas assez, tu sais, à cette époque-là, je pas encore juste ces films d'horreur de Jason, puis non, mais tu sais, même au niveau cinéma, moi, ce qui me faisait triper, c'était du cinéma ultra série B, commercial. Fait que tu sais, je comprenais ce que je pouvais, mais j'arrivais on stage, puis je récitais des 4 pages de monologue, puis ça me rappelait un peu ça, ça m'a remis un peu dans ces bottines-là, Jeannette. Parce que je voyais les enfants qui faisaient du mieux qu'ils pouvaient avec un texte ultra dense, mais qui savaient pas du tout ce qu'ils disaient. Mm. Fait que c'est bien particulier. Je dirais que ce qui l'a sauvé pour moi à un certain moment, c'est qu'un personnage qui pop, qui est comme son demi-frère.
Le rappeur, man!
Mais ouais, c'est un...
Il est fou, lui!
c'est un rappeur qui est en costume d'époque... Ah, pis il parle fou, comme une racaille, genre de banlieue de Paris, mais il se pointe, mais il parle vraiment, il a pas du tout, genre, l'accent d'époque, il parle vraiment comme une racaille, genre, quelqu'un qui va, genre, draguer une fille dans le fin fond du métro de Paris en pleine nuit, là, genre, un gars un peu dégueu, en tout cas, fait qu'il y a lui qui est quand même, ça, je dois avouer, quand il est arrivé, là, on était peut-être aux 2/3 du film, pis là j'ai fait comme oh, il y a quelque chose qui se passe là, ça m'a comme un peu réveillé, puis j'étais bien content, mais le reste du film c'est tu sais, je comprends en même temps pourquoi t'as aimé ça là, genre je comprends pourquoi quelqu'un me dirait j'embarque dans le trip,
c'est ça.
Mais il m'a manqué quelque chose, tu sais, il m'a vraiment manqué quelque chose, même tu sais visuellement c'est pas tant recherché, c'est un musical, puis ça reste que c'est, il y a des plans hyper larges de chorégraphie à moitié chorégraphiée. Genre, en plan large, c'est comme, c'est fait pour que ça ait l'air dégueulasse. Fait que c'est dégueulasse, là.
Je sais pas comment dire. En fait, je pense que vous avez pas vu le même film, les gars. C'est ça que c'est.
Non, mais.
Ouais, c'est peut-être ça.
C'est pas sous la même loupe, en tout cas. Mais. Non, mais c'est correct. Mais en même temps, tu sais, je voulais conseiller à vous parce que je sais que vous êtes des cinéphiles quand même aguerris, que vous êtes en recherche de sensations fortes, que ce soit positif ou négatif, mais je dirais ceci, ok, même si comme je disais j'ai beaucoup aimé le film, en tout cas pour plusieurs raisons, mais c'est un des films que je vais conseiller avec le plus de précaution. C'est probablement un des films que j'ai le plus aimé, que je vais le moins conseiller à des gens d'aller voir. Vous, je vous l'ai conseillé juste comme pour qu'on ait un peu une discussion, puis même
je suis content de l'avoir vu, tu sais.
Mais c'est ça, mais même.
Peut-être j'aurais pas dû commencer mon école Bruno Dumont avec ça, par exemple, parce que j'ai pas vu ses autres films.
Mais,
là, je débarque avec ça, puis je suis comme tabarnak. J'étais pas
pour. Bruno Dumont a une filmographie étrange, mais ce film-là remporte la palme, là. Je veux dire, c'est le étrange des étranges. Tu sais, tu pourrais aimer d'autres films de Dumont, là. Ça a comme pas rapport, ce film-là. Mais bon. mais ouais, je le conseille vraiment sur la pointe des pieds, là, tu sais, parce que je sais que... Puis c'est drôle parce que j'ai eu une discussion avec Philippe Gageant, du FNC, qui défend beaucoup, beaucoup ce film-là aussi, puis lui, il dit, c'est la même chose, il recevait des messages de haine, genre de gens, il dit, je suis allé voir Jeannette, genre, comme, pourquoi tu m'as infligé ça, puis il comprenait comme pas, tu sais, que ça puisse autant... Ben parce que lui, il avait profondément aimé ça, mais lui, il était peut-être un petit peu plus sur sa planète, tu sais, comme, comment dire, moi, je sais qu'est-ce qui peut tourner, ben non, mais clairement, il le sait aussi, mais je sais pas, lui, il était peut-être tellement obnubilé par les belles choses du film qu'il a perçu, qu'il s'est dit que tout le monde devrait voir ce film-là, là. Moi, je pense que, je mettrais plus de précautions là-dessus,
mais bon. J'ai pour vrai là, genre en festival, j'ai rarement vu autant de walk-out, là.
Ah, c'était quand même
intense, là. Genre, puis à chaque fois que le film, il repartait sur quelque chose de nouveau, il y a du monde qui sortait. Tu sais, le monde attendait peut-être le truc qui allait les faire craquer. Puis t'avais juste comme nouvelle scène, même décor, même comédien, même texte mal livré. Il y a du monde qui sortait. C'était par vague. C'était quand même drôle comme expérience, là.
Ben ouais.
Mais
à TIFF, c'était le même manège. Hein. C'était le film que j'ai vu où il y avait le loin le plus de gens qui quittaient. Et ouais.
Mais tu sais, sinon, je peux peut-être closer juste en disant Killing of a Sacred Deer, c'était spectaculaire. Ça, on en parlera peut-être quand il sortira en salle. Là. Mais comme... C'est tellement bon ce qu'il fait, là. Il y a tellement un style unique, puis Là, on est dans une histoire peut-être un peu plus linéaire, accessible que The Lobster, mais reste que du surréaliste dedans. Il y a une touche de surréalisme. C'est vraiment maîtrisé, là. Ça n'a pas de sens, là. Mon préf, ça va rester. Puis ça, c'est très personnel, là. Je sais que c'est pas le genre de film qui va plaire à tout le monde, mais Les Garçons Sauvages, moi, ça a été mon coup de cœur du festival, là.
Super! Super. Donc, je pense, je ne sais pas pour Les Garçons Sauvages, mais il y a plusieurs des films qu'on vient de discuter, ceux qui vont prendre l'affiche dans les prochaines semaines. Donc, on va suivre tout ça. Sinon, Pascal, tu as voyagé pas mal dernièrement, là, mais as-tu comme eu le temps d'écouter quelque chose? As-tu le temps d'écouter des films, peut-être?
Écoute ça. Je reviens du Pérou, tu sais. Puis là,
évidemment... Ça part bien l'histoire, quand même, ça.
Hein? De quoi?
Ça part bien l'histoire, ça.
Oui, j'avoue que ça se glisse bien dans une conversation cosmopolitaine avec un petit verre de vin. Mmh. Mais c'est ça. Puis, pour quelconque raison, c'est ça. Je discutais, évidemment, c'est plus la Colombie que le Pérou, là, mais mon frère et ma belle-sœur sont en train de regarder Narcos. Mmh. Puis, comme je disais, c'est vraiment pas les mêmes cultures, mais bon, on dirait que encore une fois, de la saveur péruvienne à mon retour, on s'est comme dit... Ma copine et moi, écoute, Narcos, ça nous tente. On va commencer ça. Est-ce que c'est mauvais?
Est-ce que c'est mauvais?
Tu l'as vu, Rem?
Moi, j'ai pas regardé Narcos.
Mais justement, American Made avec Tom Cruise, que je mentionnais plus tôt, en fait, c'est vraiment c'est sur cette histoire-là, mais du point de vue, donc, de. En fait, le personnage de Tom Cruise se retrouve dans la série, apparemment, mais j'ai pas vu la série.
Ouais.
Tu sais, tu regardes non. une série, puis il faut que tu tombes sur de quoi que tu haïs, là.
Non, mais ok, t'as peu. Non, j'exagère. Je me rétracte. J'ai écouté la première moitié de la saison 1. Fait que, tu sais, c'est pas non plus comme. Tu sais, c'est quoi, c'est 5 épisodes et demi à peu près, là. Donc, sur les 10 de la première saison. Fait que, tu sais, prenez quand même ma petite appréciation avec un grain de sel. Mais vraiment, genre je t'avoue que le puriste de cinéma en moi était comme quasiment un peu content de pas. D'être vraiment underwhelmé par Narcos, parce que tu dis, j'avais vraiment, je commençais vraiment à me dire, genre, hey, pour vrai, je pense que les séries télé, c'est vraiment en train d'être comme la meilleure affaire de la Terre, puis je suis en train de comme passer à côté de ça, puis là, je complexais un peu, puis tout le monde parle de toutes les séries que j'ai jamais vues, puis je suis tout le temps un peu comme largué dans toutes les conversations, puis là, j'ai vraiment fait, genre, ok, non, okay, je vais m'en taper une, puis l'histoire, a priori, de Narcos m'intéressait, tu sais, c'est Pablo Escobar, mais un peu en parallèle avec le gars de la drug DEA, là, la drug l'agence antidrogue, en tout cas, bref, qui se ramasse en Colombie pour le traquer, fait que t'as un peu comme les deux histoires, le police-bandit en parallèle, puis il y a comme quelques images documentaires à droite à gauche, OK, puis et dans la séquence générique, puis chaque plan, OK, de Pablo Escobar que tu vois, OK, même quand c'est hors contexte puis c'est un peu tout croche, le personnage est fondamentalement fascinant, OK, quand tu le vois dans des images d'archives, t'es comme tout de suite, tu comprends tout de suite une fascination. L'acteur, il a un charisme de cadavre, esprit qui est plate à regarder. Les scènes sont esquissées, il est là, il se pointe, man, il a tout le temps le bon mot parce qu'il est comme ahead de tout le monde, puis c'est lui qui va comme prendre toutes les bonnes décisions, genre de mafieux comme. Puis ça glamour. Je sais que c'est sûr que comme les Scorsese, c'est sûr que c'est un rise and fall parce que tu sais, je veux dire, l'histoire de Pablo Escobar finit comme pas bien. Mais pour la majorité des
spoilers.
Gens. Spoilers. Mais tu sais, comme mettons moi là, tu sais, j'ai écouté la première moitié de la saison 1, là, puis ça glorifie, man, le lifestyle là, du gangster, mon gars, là, ça a aucun bon sens, là. Puis, en tout cas, il y a plusieurs problématiques de fond. Puis, c'est mal shooté, c'est mal monté, les acteurs sont tout croche. En tout cas, moi, j'ai vraiment pas aimé Narcos, mais on a commencé Big Little Lies, puis ça rock, vraiment. Fait que, à suivre, là, j'ai juste écouté, je l'entends, mais disons. Mais j'ai bien aimé. Mais j'ai quand même pu regarder un film, c'est Wind River. Là, je voulais spoiler un peu avant. Je sais pas si vous voulez, je peux vous faire un petit. Je peux vous faire un petit rendu rapide.
Ça, c'est avec le gars qui jouait dans le quatrième Bourne qu'on a oublié de mentionner tantôt, ça.
Ils ont fait un quatrième Bourne. Non, je pense que tu te trompes.
c'est un film, Wind River, donc qu'est-ce que c'est? Il met en scène notre préféré, Jeremy Renner, je dis ça sarcastiquement. Mais encore là, le film avait des assez bons échos pour que je passe un peu outre mon préjugé anti-Jeremy Renner. Là, je me suis dit, écoute, peut-être qu'en loup solitaire... Arctique. Non, non, mais tu sais, comme ça peut passer. Je sais pas.
Peut-être qu'en loup solitaire, Jeremy Renner, il est bon. Je vais donner cette chance.
Ben, tu sais, en même temps, c'est son casting, peut-être.
Il n'y a pas de casting. C'est un peu de tofu, Jeremy Renner.
Non, non, un peu asocial, un peu genre, j'ai besoin de personne, foutez le camp. C'est Jeremy Renner, ça. Fait que c'est exactement son casting, donc j'ai eu aucune surprise à ce niveau-là. Mais mais en fait, je ris, mais Wind River, pour être bien franc, là, si je peux réorienter ma critique, j'ai beaucoup aimé ça, en fait. Malgré des gros bémols, Jeremy Renner, Mais donc, qu'est-ce que c'est? C'est justement un loup solitaire, un chasseur, dans une communauté autochtone du Wyoming. Vraiment, puis le film est arctique, justement, très froid dans la neige. Il y a comme une ambiance très claustrophobe qui est franchement bien réussie. Et il tombe un peu par hasard, donc en chassant là, les loups pour protéger le bétail, il tombe sur un cadavre. Gelé là, dans la neige, une jeune femme autochtone, les pieds nus, des engelures sur les pieds, a été visiblement battue, là, l'autopsie révèle des histoires de viol, c'est très sordide, là, comme on est vraiment dans quelque chose de l'horreur un peu, et une agente du FBI jouée par Elizabeth Olsen débarque, est un peu comme sous-préparée à un peu à la violence peut-être de cette communauté-là, tu sais, justement une réserve un peu où c'est un peu le Far West, puis le film fait beaucoup de parallèles thématiques avec, c'est un peu un western dans la glace un peu, dans la neige. Tout ça c'est très bien en fait, l'ambiance est bien, l'intrigue est bien. Maintenant, c'est drôle en fait, mais les bémols sont peut-être un petit peu les deux comédiens principaux. Elizabeth Olsen, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est vraiment un problème de notes et de direction parce que, tu sais, elle arrive, c'est l'agent du FBI. Déjà, elle est jeune, c'est une femme, donc elle est green, là, tu sais. Puis, mais elle le joue green aussi. C'est comme si elle était tout le temps trop émotive, elle était tout le temps un peu trop immature dans ses réactions, dans sa façon d'être. Fait que c'était comme un peu trop comme pas assez. Puis là, ça la rendait finalement un peu nunuche, puis un peu peut-être plus ou moins intéressante. Jeremy Miller, c'est un espèce de héros américain figé dans le temps qui date des années 80, on dirait. Là, une façon d'écrire les personnages avec un backstory tourmenté là, de quelqu'un qui est mort dans sa famille, mais il a besoin de personne, puis il est jamais en danger, puis il est juste trop fort pour la ligue là. Ça c'est vraiment Jeremy Renner, t'sais. Mais finalement le film, comme je disais, s'en tire vraiment bien malgré ça. Ça a l'air insurmontable comme problématique, mais non, en fait je trouve que juste une bonne intrigue, une bonne tension, bonne mise en scène. Taylor Sheridan, le réalisateur, c'est lui qui a écrit Hell or High Water, entre autres. C'est un peu ce genre-là, tu sais, c'est greedy, c'est... Donc, ouais, j'ai finalement étrangement embarqué le malgré Jeremy Renner qui a à peu près trois faces différentes dans tout son acting. fait que, ouais, ce serait Wind River vraiment très rapidement. Je vous le conseille pour vrai... Très solide film, là, malgré tout. Ouais.
Genre solide, mais pas remarquable. Tu sais, comme un bon thriller.
Ouais, ouais, c'est ça. Exactement. Ça se regarde bien. C'est comme si t'entres dedans, tu passes un bon moment, définitivement. Mais en même temps, tu t'en sors un peu crasseux parce que, tu sais, c'est des thématiques un peu de femmes autochtones violées, disparues. Tu sais, c'est comme des genres de réalités harsh, mais qu'on veut délibérément fermer les yeux dessus. Donc, il y a quand même quelque chose de plus, tu sais. Il y a cette petite couche-là qui élève encore le film.
Parce que c'est aussi lui qui avait écrit Sicario aussi, donc j'aime que
pas mal Sicario, exactement. Taylor Sheridan, Sicario, il avait écrit ça, c'est vrai. Fait que...
C'est comme on dirait qu'il fait beaucoup des espèces de western dans des contrées loin, tu sais, comme dans... sur d'autres peuples, en fait, l'impact du rêve américain sur d'autres peuples ou quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça, non, exact, je pense qu'on... Non, tous ces films-là font du sens, une fois collés les uns aux autres. Tu sais, moi, vois-tu, c'est tous des films où j'ai des bémols, Sicario, Hell or High Water, celui-ci, mais c'est vraiment loin d'être des duds, là, c'est pas des mauvais films du tout, c'est des films qui ont quand même... qui ont tout le temps la petite couche, la petite élévation qui les amène dans quelque chose de quasi peut-être philosophique ou ben, t'sais, sociologique, mais qui finalement devient un genre de questionnement éthique et moral. Puis ouais, non, c'est Donc, bon pouce en l'air pour Wind River, les chums.
C'est pas prévu en fait que j'en parle, mais juste parce qu'on rit un peu de Jeremy Renner, sachez que dans l'avion, j'ai écouté un film mettant en vedette Jeremy Renner.
Arrêtez, guys!
Non, mais écoutez, non seulement c'est un très bon film, très drôle et un très bon rôle pour la comédie The House, avec Will Ferrell et Amy Poehler. Ouais, ben c'était dans.
Attends, puis avec Jason Mantzoukas surtout, là. Ça, c'est genre. Jason Mantzoukas, tu le mets n'importe où, puis il va tout te sauver.
Non, mais
c'est. Fait que toi, Paul, t'es dans l'avion, t'as plein de choix. Ouais. Tu te dis, je vais écouter The House.
Ouais. Ok, ben.
Non, mais c'est, tu règles des affaires dans l'avion. Tu sais, moi, j'avais réglé Batman contre Superman, là, tu sais.
Ouais.
C'est comme.
Non, mais ça fait.
C'est là que ça va être léger, là.
Mais ça fait une parfaite d'avion parce que j'avais quand même un gros vol à faire avec deux escales. Je suis un peu fatigué, puis tu sais, c'est comme. Une comédie quand t'es un peu fatigué, c'est encore plus drôle. Fait que j'ai comme, ok, ça me tente, tu sais. Puis en plus, il durait, je pense, 85 minutes, quelque chose comme ça. Fait que je me suis dit, je vais écouter ça, puis je vais essayer de dormir après un peu. Puis c'est très bon, en fait. C'est produit par Adam McKay aussi. Puis tu sais, c'est ça, ben évidemment, Adam McKay puis Will Ferrell qui ont travaillé beaucoup ensemble, qui ont fondé Funny or Die. Puis ça marche, en fait. Tu sais, si on. Je pense que rendu là, tu sais, soit on est fan de Will Ferrell, soit on l'est pas. C'est vraiment pas un de ses meilleurs films, mais c'est pas non plus mauvais. J'ai vraiment ri beaucoup, en fait. Puis le pitch, rapidement, c'est dans le fond, un couple de parents que leur fille s'en va à l'université et ils sont censés recevoir une bourse de la ville. Mais là, le maire de la ville est corrompu, fait qu'ils préfèrent genre faire une grosse piscine puis annuler la bourse à cette famille-là. Fait qu'eux, ils se disent, ah, vite, on doit être des bons parents puis on doit trouver de l'argent rapidement. Fait que là, ils sont comme... Will Ferrell, il retrouve un ami d'enfance qui veut aller à Las Vegas avec, mais là, finalement, ils se disent, au lieu d'aller à Las Vegas, on va ouvrir notre propre casino privé dans notre sous-sol, et au lieu de perdre l'argent, ben on va gagner l'argent parce que la maison gagne toujours, tu sais, le casino gagne toujours. Donc, c'est un peu ça la prémisse, puis évidemment, c'est juste le prétexte à faire un peu de la folie puis des situations cocasses. Mais les deux principaux, tu sais, Will Ferrell et Amy Poehler, ben ils s'en donnent à cœur joie, ils ont bien du fun.
Puis Jason Mantzoukas, hein? Puis Jason Mantzoukas.
Oui, également, mais il est moins important que ces deux-là, vraiment. Puis non, c'est ça. Puis,
ça dépend pour qui.
Et c'est ça, un rôle de Jeremy Renner là-dedans, qui joue très bien, tu sais, il est sur le bon ton. Parce que c'est des fois des acteurs qui sont pas nécessairement des comédies, qui font pas des comédies, n'arrivent pas à trouver le bon ton, mais lui, je trouve qu'il l'a bien fait. Il y avait beaucoup aussi d'autodérision dans ce rôle-là. Puis ça
ouais,
marche,
mais c'est ça. Ça marche mais bien. En fait, c'est drôle que tu dises ça, mais ça me surprend pas. C'est-à-dire, j'ai comme l'impression que Jeremy Renner, il serait bon à faire une affaire. Non, mais tu sais, comme le genre de gars pince-sang. Parce qu'il a comme une gueule. Tu sais, tout le temps, les yeux, il fronce ses sourcils, il check. Ça, c'est un peu Jeremy Renner. Fait que tu sais, comme dans l'humour, un peu pince-sans-rire, avec le bon montage, les bonnes situations. Il peut passer, genre.
Hey, j'espère que ce podcast-là va avoir le titre. Genre, tu sais, d'habitude, tu fais deux films, puis il y a juste Jeremy Renner, puis quelque chose d'autre. Parce que. Mais j'ai dit tantôt, c'est un bloc de tofu. Tu sais, tant que tu mets les bonnes épices dessus, il va goûter ce qu'il faut que ça goûte, tu sais, mais comme. Tu sais, de base, il est fat, puis un peu humide, là. Puis c'est comme. Ok, j'arrête.
On mettra ça sur la pochette Blu-ray de Wind River, tu sais. Jeremy Renner, il est fade puis un peu humide. Sinon, c'est écoutez, si 2017 n'est pas l'année de Jeremy Renner, c'est certainement l'année de Stephen King. On en parle depuis longtemps. Et là, encore deux de ses films, c'est quand tu peux dire ça, qui ont pris l'affiche à un mois d'intervalle sur Netflix, deux productions Netflix. Et donc, on a respectivement vu, toi et moi, Rémi, t'as vu donc Gerald's Game, l'adaptation du roman en français de Jesse, et j'ai vu 1922, donc adapté la nouvelle du même nom. Fait que vas-y donc Rémi, Gerald's Game, est-ce que t'avais déjà lu le livre, est-ce que c'est une bonne adaptation?
Non, en fait c'est toi qui m'avais pitché la prémisse, puis ça m'avait full intrigué. Mm-hmm. C'est un film assez court que tu peux te... un petit trailer là, que tu tapes en fin de soirée, là. Ouais. C'était comme le bon timing, tu me l'avais bien vendu avec la prémisse, mais sans savoir si le film allait être aussi bien que sa prémisse. Mm-hmm. Puis l'autre chose qui me l'a vendu, c'est que c'est Mike Flanagan qui l'a réalisé.
Mm-hmm.
qui est comme là, il est un peu comme un chouchou du cinéma d'horreur. Là, il a fait Oculus dans les dernières années. Il a fait Hush qui est sur Netflix aussi, qui est vraiment bon, un truc ouais. Home Invasion, super efficace. Tu sais.
Il a fait Ouija avec des centres de table. Là. Ouais,
il bon. Fait, il fait oui, il a fait Ouija 2 en fait. Ben, il a fait Ouija 2 parce que Ouija 1 était pas si bon. Puis moi j'ai vu le, ben même il était très mauvais là. Puis moi j'ai vu le 2 qui est super efficace. Fait que tu sais, il fait comme sa place sans faire des films aussi bons, mettons, qu'un James Wan. Il a quand même sa place dans le cinéma d'horreur. Fait que tu sais, c'est un bon candidat pour prendre un Stephen King. Il est au point où il peut adapter un Stephen King, où il a le droit là, tu sais. Puis Gerald's Game, il y a un peu, je sais pas pourquoi, mais on dirait que les films Netflix, il y a quelque chose qui manque tout le temps. Puis j'en écoutais un autre cette semaine, j'ai écouté The Babysitter, puis il manquait quelque chose encore. C'était comme c'est McGee là qui a réalisé The Babysitter, le McGee qui est connu pour ses Charlie's Angel 1 et 2, puis son Terminator. C'était quoi déjà avec celui avec Christian Bale que tout le monde oublie.
Salvation. Salvation. Un peu, là. Ouais, ok, ouais.
Ouais, c'est pas un très bon réalisateur, puis il a fait vraiment un film à la j'ai oublié le nom en plus, le gars qui a réalisé Torque là, Joseph Kahn. Ouais, Joseph Kahn. Ouais, il a fait comme du sous Joseph Kahn avec son babysitter là, c'est genre ultra génération YouTube là, tu sais, avec plein d'affaires qui flashent dans ta face, mais il y a comme pas de scénario, puis c'est all over the place.
Tu peux pas out Joseph Kahné, Joseph Kahn.
Non, c'est ça. Mais ça ressemble vraiment au style de Joseph Kahn. Ça ressemble à Detention beaucoup. Mais c'est ça, mais on dirait que les productions Netflix manquent un petit quelque chose. Puis Gerald's Game, c'est ça, là, tu sais. Il y a comme un côté, tu sais, il faut que ça soit accessible. Il faut que les gens mettent des pouces dans les airs. Il faut qu'on aille les shaker un peu. Puis on dirait qu'il avait peur de... Je sais pas comment ça se passe dans le livre. Mais dans le film, il y a des flashbacks. Tu sais, la prémisse du film, c'est que c'est un huis clos dans une chambre, dans un chalet au fin fond du bois. T'as un couple qui vont là pour, disons, se redorer leur vie sexuelle. Je vais mettre ça simple comme ça. Il y a des complications dans le couple, mais ils vont là pour passer un week-end en amoureux. Puis la fille se fait attacher au lit et devant elle... son mari meurt. Est-ce que je peux le dire? C'est comme un...
Ouais, c'est vraiment dès le début du livre, en fait, c'est ça la prémisse. C'est pas juste qu'il meurt, c'est que...
C'est un spoiler, mais en même temps, ça arrive à genre 6 minutes dans le film.
Ouais, c'est vraiment la prémisse. En fait, c'est pas tant qu'il meurt que... En fait, c'est qu'elle finit par... Elle refuse de continuer les jeux sexuels. Puis là, il y a comme une histoire de viol, finalement, parce que lui, il est pas sûr si elle joue à un jeu, si elle joue à la victime. Fait que lui, en fait, ce qui est terrible, c'est que tu te rends compte que peut-être que lui, il sait qu'elle joue pas le jeu, mais qu'il veut continuer pareil, puis qu'il en profite pendant qu'il est attaché. Et donc, en se défendant, elle le tue accidentellement, finalement.
Ouais, genre. Là, tu me pitches la prémisse du livre, puis tu vois, ouais. Ils ont tourné les coins ronds un petit peu dans le film, là. Parce qu'on voit que l'intention, c'est ça, mais reste qu'il fallait squeezer ça dans 1h40. Puis mettre des flashbacks un peu lourds au travers pour justifier que c'est un long métrage. Là. Mais je trouvais que justement, le début, là, ils ont coupé un peu les coins ronds. Puis après ça, j'ai comme senti que qu'il était frileux de rester dans la pièce. Pourtant, ils l'ont fait avec Misery, puis ça marche tellement bien de rester en mode huis clos puis de créer cette tension-là. Puis là, ben, c'est ça, là. Il faut qu'il y ait comme une histoire, un background ultra lourd des personnages, puis des gros flashbacks qui nous sortent de la pièce, qui sont esthétiquement over the top, disons. Ouais, il y a très comme léché, une éclipse. Puis... Ouais, il y a comme une éclipse qui se passe, puis fait que ça fait des espèces de super belles shots. Mais tu sais que finalement, le huis clos un peu gritty était peut-être un peu plus tentant que d'aller vers ça. Puis l'autre chose dans Gerald's Game, que là, je spoilerai pas, mais la finale, je te dirais que les 7 dernières minutes, c'est épouvantable. C'est essayer de juste fermer plein de trucs qui n'avaient pas besoin d'être fermés de base, qui probablement, c'est ça qui est dans le livre, puis c'est pour ça qu'ils l'ont fait de même, mais c'est quasiment sous forme de montage, où là, tu sors de la pièce, puis il y a plein de choses qui sont rappées. Pis t'as pas besoin de ça, là. Tu sais, le film, tu sais, quand tu regardes un film pis tu sais que le film aurait pu finir il y a 7 minutes, finissez sur un truc un peu ouvert au lieu d'essayer de trop en mettre, là. Mais c'est ça, pour moi, c'était comme un... C'était un peu un fail, là. Parce qu'il y a vraiment des bons trucs. Tous les moments qui sont dans la chambre, c'est super cool. Les comédiens sont excellents, ils jouent très, très bien. Mais... C'est ça. Puis, drôle de comédien, puis drôle de casting, en fait. Dans les flashbacks, celui qui joue le père de la fille, c'est genre le petit gars dans E.T., celui qui joue Elliot.
Ah,
fait
ouais.
Que juste pour le... Ouais, juste pour le LOL, là, genre, je l'ai su après, mais comme... Bon, tu sais, c'est comme un comédien que tu vois plus ou que tu remarques pas parce que... Mm-hmm. Parce que qu'est-ce qu'il a fait après, là, mais ouais, le comédien qui jouait Elliot est là dans le film. Fait que c'est ça. Au moins, on peut se raccrocher à ça, peut-être.
Mais non, mais c'est dommage parce qu'en fait, c'est ça, la grande force du livre, selon moi, c'était vraiment qu'on sortait jamais de la chambre. Tu sais, c'est... Puis bon, c'est dur, c'est évidemment, c'est une métaphore, mais t'avais presque l'impression que c'était un livre en temps réel, tu sais, quand tu le lisais, parce que, tu sais, en gros, au début, c'est qu'elle essaye de se faire des menottes, puis à un moment donné, elle a soif, puis il y a comme un verre d'eau pas loin, puis tu sais, il y a comme des chapitres.
Ouais, tout ça,
ouais. Tu sais, elle qui essaie de prendre un verre d'eau, mais tu sais, si tu dis qu'à chaque fois, il y a comme des flashbacks qui viennent un peu briser l'attention, c'est dommage, finalement. Plutôt que de faire. Parce que tu sais, un bon film de huis clos, tu sais, c'est bon.
Ben, Misery, on réussit.
Il y a moyen, ben oui.
Ouais.
Mais c'est quoi l'autre de Stephen King?
C'est ça.
Donc, je savais même pas, oui.
Ben oui, c'est ça. Ça est sorti quelques jours à peine, à temps pour l'Halloween, donc 1922.
Ah, OK, oui, oui. Ouais.
Une autre production de Netflix, adaptée de la nouvelle du même nom, dans le recueil, en anglais, je pense c'est Full Dark No Star, Nuit Noire Étoile Morte en français. Et... le pitch, donc, c'est donc en 1922, on se l'est douté, sur une petite ferme où vivent un homme, sa femme et leur fils. Tout va bien, sauf que là, la femme est un peu tannée de la vie de ferme, puis elle aimerait bien aller s'installer dans la grande ville et peut-être, tu sais, ouvrir une boutique pour de couture, parce que ça est tannée un peu du train-train très banal de la campagne et de la ferme avec les vaches à traire et le blé à s'occuper et tout ça. Et donc, l'homme, en fait, qui est joué par... Je prends ici...
Thomas Jane.
Oui, Thomas Jane. Thomas Jane, qui est vraiment très, très bon dans le film. Là. Puis, le film avait besoin d'une bonne performance principale. Puis ça, c'est réussi. Peut-être sa voix qui m'énerve un peu. On dirait qu'il a comme essayé de faire presque une imitation de Tom Hardy, un peu, avec une espèce d'accent qui est un peu trop appuyé. Puis des fois, t'as un peu de la misère à comprendre. Mais après 10-15 minutes, je m'en souciais plus, mais au début, j'avoue que j'avais la difficulté avec sa voix. Et donc, lui et son fils, ben, en fait, c'est lui qui décide d'assassiner sa femme. Et il demande l'aide à son fils pour bon, la retenir pendant qu'il exécute l'acte. Et ça, c'est vraiment donc, le départ du film. Et ensuite, c'est qu'ils doivent évidemment vivre avec les remords et surtout donc cacher le corps et cacher la chose. Dans un tout petit village où les gens parlent et les soupçons vont vite. Donc, je dirais que c'est quand même... c'est un film... Il n'y a pas vraiment de faux pas dans ce film-là. C'est assez bien réussi. Il y a une bonne ambiance. Il y a beaucoup de temps mort. Une excellente trame sonore. Et donc, c'est l'acteur principal très bon. Mais c'est comme pas un film remarquable. Tu sais, ça... La prémisse que je viens de vous dire, on s'imagine que c'est ça, qu'il va y avoir des soupçons, puis peut-être le shérif du coin qui va commencer à enquêter, puis se demander est rendu où sa femme, tout ça, mais. Puis on se doute évidemment qu'il va y avoir 2-3 rebondissements, puis de plus en plus le personnage, peut-être que ça va peser lourd sur lui, tout ça. Et il y a une espèce de métaphore avec les rats, parce qu'il y a, beaucoup, il y a comme un problème de vermine. Hein. Mais c'est ça, ça va pas plus loin que ça, puis le film offre pas vraiment de surprise. La nouvelle, d'ailleurs, m'avait pas particulièrement marqué, mais tu sais, en voyant le film, je me rappelais un peu de ce qui se déroulait. Mais tu sais, pourquoi pas, en fait, mais c'est juste que le problème avec ça, en fait, c'est que j'ai l'impression que de plus en plus, surtout avec le succès de Hit, en fait, là, tu sais, qui est vraiment... Là, d'ailleurs, c'est vraiment drôle parce qu'en fin de semaine, le film était rendu pour le box-office international, là, de partout dans le monde, un total de 666 millions de dollars.
Oh.
Juste à temps pour l'Halloween. Ça arrange avec le gars des vues. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'on va comme fouiller tous les recueils puis tous les trucs qui n'ont pas encore été adaptés de Stephen King, puis on va en faire des productions. Puis, je suis pas contre ça, tu sais, en étant quand même un fan, sauf que... Tu sais, il est rendu à peu près, là, on approche la centaine d'adaptations d'œuvres de Stephen King, tu sais.
Ouais, c'est ça. Hein.
Puis c'est comme, c'est quand t'es rendu à vraiment gratter les fonds de tiroir. T'sais, 1922, c'est pas une mauvaise histoire. Puis même que c'est bien foutu comme film, sauf que ça fait quand même... Il y a un petit côté de téléfilm. Ça me rappelle un peu 1408, je sais pas si vous l'avez vu, qui se passe dans une chambre d'hôtel. Ouais, ça, dans une chambre d'hôtel avec John Cusack et Samuel L. Jackson, qui était comme pas mal, mais t'sais, c'est rien de remarquable. T'sais. Puis j'ai l'impression que c'est ça, on va juste en voir de plus en plus, en fait. Puis ça vient juste comme c'est ça, un prétexte à avoir une base de scénario solide, puis surtout un fanbase énorme pour comme pouvoir se rembourser.
C'est ça. Ça devient du marketing rendu là, pouvoir dire quasiment que t'es basé sur Stephen King. En soi, ça devient comme un peu la finalité, j'ai l'impression, de certaines manœuvres de production, là,
ouais.
Finalement.
Ouais, pis, ouais.
Ça met parce un peu que Netflix saute un peu à pieds joints là-dedans, peut-être. Là, mais bon.
Mm. En plus, avec tout, tu sais... Tous ceux qui restent adaptés, mais tous ceux qui vont être remakés aussi.
Ben oui, c'est
ça. Et t'embarques là-dedans, mais la bunch d'adaptations qu'il y a eu des années 80-90 qui vont toutes être refaites, là, à un moment donné.
C'est clair. Surtout, j'ai l'impression pour les films qui ont peut-être mal vieilli. T'sais, c'est plus facile, j'ai l'impression, de remaker un film oublié et ou mauvais que de remaker un film qui est vraiment bon. C'est comme... Ouais. J'ai pas l'impression qu'on va revoir The Shining de sitôt, même si Stephen King lui-même avait commandé une mini-série par après.
Ouais, c'est ça, il y a eu un remake déjà, tu sais.
Ouais.
Moi, j'ai vraiment hâte, en tout cas, au remake de Dark Tower, en tout cas.
Ugh, mais ça... non, mais pour vrai, au moins, je me dis, tant mieux si le premier a pas marché au niveau de box-office, parce que, mais d'avoir une série de films complets comme ça, aussi mal foutu, ça aurait été un peu dommage, ou une série télé, là. Mais en fait, un des trucs les plus intéressants peut-être pour les adaptations de Stephen King à venir, c'est, je pense, ça commence en 2018, c'est une nouvelle série télé de Hulu, produite par J.J. Abrams, qui nous avait donné donc 22 novembre 63 sur l'assassinat de JFK. Et donc, la prochaine série, ça va être Castle Rock. Et en fait, plutôt que l'adaptation d'une œuvre en particulier, c'est censé être... On n'est pas encore sur des détails, mais c'est une série anthologique qui, en fait, est basée plutôt sur l'univers de Stephen King. Et parce que, en fait, plusieurs de ses livres se déroulent dans le même univers. Il y a plusieurs collections dans plein de ses romans. Et souvent, en fait, la plupart ont lieu dans l'État du Maine. Et il y en a plusieurs de ces livres qui se déroulent donc dans la ville fictive de Castle Rock. Donc, ça va être l'occasion peut-être de tout relier ça. Alors, ça va être peut-être l'occasion dans la même série d'avoir justement un Jack Torrance qui croise Pennywise, et etc. Donc, peut-être que ça, c'est peut-être le projet dans lequel j'ai le plus d'espoir, parce que j'avoue que tous les nouveaux projets qui s'en viennent, qui sont inévitables. Même ça, partie 2, le hit partie 2, je peux pas dire que je l'attends particulièrement. Tu sais, je vais probablement aller le voir, mais le premier ne m'a pas laissé non plus une grande impression. Donc, donc voilà, un constat en demi-teinte pour les adaptations de Stephen King, mais on reste quand même avec de l'espoir. Donc ça faisait le tour, en fait.
Juste dire, pour le prochain épisode, les gars, on écoute Hansel et Gretel, Witch Hunter avec Jeremy Renner, right? C'était ça le plan?
À tout le monde.
Ok, on finit avec ce trailer-là, let's go.
Non, mais en fait, sérieusement, j'aimerais ça qu'on se quitte sur la bande-annonce d'un film québécois qui sort cette semaine, La petite fille aux allumettes, de Simon Lavoie.
Mm-hmm.
Que le saut de
la petite fille qui aimait trop les allumettes.
Oui, c'est ça. Pardon. Oui. Que le saut de l'approval seal de Pascal Plante, right?
on s'en reparle.
Moi, j'aimais ça, par exemple.
On s'en reparlera.
Donc, right. C'était notre point de vue. Mon nom est Paul Andréau et j'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Blanc.
Monsieur Soisson, c'est ton père, ça? Il y a toutes sortes de rumeurs qui courent à son sujet au village. Les gens n'ont peur, en fait.
Je sais ce que vous pensez. Vous croyez que je suis fou, c'est ça?
Qu'est-ce que tu faisais là-bas? T'as pas dit qu'on mourrait si on entrait là-dedans?
Tu vois pas qu'il nous a raconté des histoires toute notre vie?